Chapitre 29. Candor Casma. Pendant les 8 jours et 8 nuits martiens que souffla la tempête de sable, les creux atteignirent 10 mètres. Le vent ne cessa de hurler dans le gréement, et la petite felouque fut inexorablement poussée vers le nord, vers la rive où une mort certaine attendait l'équipage, y compris les 2 morts avec. Les petits hommes verts étaient des marins compétents, mais non seulement ils cessaient d'être opérationnels la nuit venue, mais les nuages qui occultaient le ciel pendant la journée les plongeaient également dans l'inactivation. Lorsqu'ils allaient s'abriter sous le pont pour éviter de passer par-dessus bord durant leur sommeil, Manmut avait l'impression de commander un navire des morts, tel celui à bord duquel le Dracula de Bram Stoker débarque en Angleterre. Les voiles de la felouque étaient taillées dans un polymère aussi léger que robuste plutôt que dans de la toile, mais elles furent déchiquetées par les cailloux et autres particules soulevées par le violent vent d'est. Le pont n'avait plus rien d'un refuge, et profitant d'une brève éclaircie, 20 PHV aidèrent Manmut à y découper une trappe pour descendre Orphue au niveau inférieur, où on l'installa sous une tente en toile goudronnée maintenue en place par des poutres. Le petit Moravec sentait des grains de sable s'insinuer dans ses œuvres vives lorsqu'il s'exposait trop aux éléments, de sorte qu'il passait le plus de temps possible auprès de son ami, vérifiant qu'il était solidement arrimé chaque fois que la gîte dépassait les 40 degrés et qu'une eau rougie par le sable pénétrait par toutes les ouvertures à sa portée. Dès que les petits hommes verts reprenaient conscience, une douzaine d'entre eux passaient 1 heure aux pompes pour vider la cale et la sentine, une tâche que Manmut prenait en charge lors de ses nuits solitaires. Ils avaient tiré parti du vent tant que les voiles, le gréement et les ancres étaient encore intacts, travaillant d'arrache-pied tandis que des paquets de mer déferlaient sur eux sans relâche pour gagner la grande mer intérieure, craignant les falaises menaçantes qui se dressaient au nord sur une hauteur de 1000 mètres, et ils avaient couvert des centaines de kilomètres durant les 2 premiers jours de mauvais temps. Ils se trouvaient quelque part entre Coprates Casma et les îles de Mélas Casma, avec à tribord avant, ce complexe réseau de canyons engloutis qu'était Candor Casma. Puis la tempête avait pris de l'ampleur. Le ciel avait viré au noir, forçant les PHV à s'attacher sous le pont pour protéger leur sommeil, et les ancres de proue et de poupe, des volutes de polytoile reliées au navire par des centaines de mètres de chaîne, avaient cédé toutes les deux le même jour. Grâce à ses observations antérieures, Manmut savait qu'au nord de leur course se dressaient des falaises de 1000 mètres et, quelque part, la bouche des canyons engloutis de Candor Casma. Mais l'électricité statique induite par la tempête brouillait sa perception satellite, et cela faisait 2 jours qu'il n'avait pas eu droit à un ciel dégagé. Pour ce qu'il en savait, peut-être n'était-il qu'à 1 demi-heure de distance de la mort.
« Y a-t-il un risque pour que nous coulions ?» demanda Orphue l'après-midi du 4e jour.
« Les chances sont bonnes. »
Comme Manmut ne voulait pas mentir à son ami, il avait délibérément adopté une phraséologie ambiguë.
« Tu pourras nager dans une telle tempête ?»
s'enquit Orphue. De toute évidence, il avait compris la nature des chances en question.
« Pas surnager, non, » répondit Orphue. « Mais nager sous les vagues, oui. »
« Moi, je coulerai comme la pierre proverbiale, »
dit Orphue dans un grondement.
« Quelle est la profondeur de Valles Marineris, as-tu dit ?»«
Je n'ai rien dit. »«
Eh bien, dis-le. »«
Environ 7000 mètres, »
répondit Manmut, qui avait effectué un sondage à peine 1 heure plus tôt.
« Une profondeur écrasante même pour toi, non ?»«
Non, j'ai déjà travaillé sous des pressions plus élevées. Je suis conçu pour. »
Et moi ?
Je ne sais pas.
C'était la vérité. Mais il savait néanmoins qu'Orphue et ses semblables avaient été configurés pour le vide spatial, où la pression est nulle par définition, les hautes couches atmosphériques d'une géante gazeuse et les soufrières d'Io, pas pour une fosse océanique de 7000 mètres de profondeur. Son ami se retrouverait réduit à l'état de boîte de conserve broyée, à moins qu'il n'implose avant d'atteindre les 3000 mètres.
« Avons-nous une chance de nous réfugier à terre ?»
demanda Orphue.
« Je ne pense pas. Les falaises que j'ai observées étaient gigantesques, des précipices reposant sur d'énormes brisants. Les vagues qui s'y écrasent en ce moment doivent être hautes de 50 à 100 mètres.
« Voilà qui est évocateur. Y a-t-il une chance pour que les PHV nous conduisent à bon port ? Manmut parcourut du regard le pont inférieur plongé dans la pénombre. Les PHV qui y reposaient, solidement arrimés, ressemblaient à des poupées de chlorophylle avec leurs membres ballottés par le tangage et le roulis.
« Je ne sais pas »,
avoua-t-il d'une voix où perçait son scepticisme.
« Dans ce cas, nous comptons sur toi », conclut Orfu.
Manmut se défonça pour les sauver. Le cinquième jour, sous un ciel couleur de sang noir, avec un vent hurlant dans la toile déchiquetée, avec les PHV entassés sous le pont comme des fagots, avec la roue fixée par un cordage pour maintenir le cap, Manmut ramena ce qui restait des voiles et attrapa la corde et les aiguilles avec lesquelles les PHV reprisaient la polytoile. Sauf qu'il était obligé de faire de la couture pendant que la felouque était battue par les flots et que des vagues de 15 mètres de haut se brisaient sur elle. Il commença par bricoler une nouvelle ancre flottante, plus petite que celle qu'ils avaient perdue, la déployant à partir de la proue afin de remettre le navire sur la bonne route et d'éviter la côte invisible mais toujours présente à son esprit. Il venait de commencer à réparer la grande voile lorsque les drosses se rompirent. La felouque tressaillit, chevaucha quelques vagues couleur de sang, perdit le cap, puis devint le jouet du vent et des vagues puissantes s'abattirent sur sa poupe. Seule l'ancre flottante l'avait empêché de chavirer. Manmut alla jusqu'à la proue, et c'est là, comme les nuages rouges s'écartaient un instant et que le navire frémissait au sommet d'une vague, qu'il aperçut, au sein de la pénombre, les falaises au nord de Valles Marineris. S'il ne réparait pas le gouvernail, le navire se briserait sur les récifs dans moins d'une heure. S'accrochant à une corde, il descendit le long de la coque pour vérifier que le gouvernail était toujours fixé au navire. Il l'était, mais il bougeait sans contrainte sur son cardan. Puis il remonta au sein des embruns, traversa le pont médian, glissa jusqu'au pont inférieur, localisa le poste de gouverne, une plateforme équipée de poulies où les PHV actionnaient le gouvernail en tirant sur les drosses lorsque la roue était endommagée, y trouva deux câbles détendus, descendit d'un niveau supplémentaire dans le troisième pont enténébré, actionna ses lampes de torse et d'épaule pour éclairer sa route, substitua des lames à ses manipulateurs et s'ouvrit un passage vers le point où les drosses avaient dû se rompre. Le Moravec ignorait si les antiques felouques terriennes étaient d'une conception similaire. Il ne le pensait pas. Mais cette felouque martienne était pilotée par une double roue placée près de la poupe qui actionnait deux cordages qui se dissociaient pour couvrir l'un à bâbord et l'autre à tribord grâce à un système de poulies et se rejoignaient ensuite pour commander la barre qui agissait sur le gouvernail. Il avait profité du long voyage pour visiter tous les coins et les recoins du navire, se faisant une idée des plus précises de son fonctionnement. Si l'un des deux câbles, voire les deux, s'était tout simplement défilé, en effet de la tension due à la violence de la tempête, ils pouvaient peut-être les réparer, à condition d'y avoir accès. S'ils avaient cassé plus loin, au niveau de la barre franche, c'est-à-dire dans un endroit inaccessible, alors le navire était perdu corps et biens. Serait-il capable de le fuir, de tenter sa chance en nageant sous les rouleaux, de trouver un abri sur les 1000 kilomètres de côte que comptait Condor Casma? Une chose était sûre, il ne pourrait pas emporter Orfu Dio avec lui. Il se dégagea un accès aux drosses, régla ses lampes à l'intensité maximale et regarda des deux côtés. Aucun câble en vue.
« Est-ce que tout va bien ?» demanda Orfu.
Manmut fit un petit bond en entendant cette voix dans ses oreilles.
« Oui, » fit-il, « je bricole le gouvernail. »
Les voilà. Les deux câbles avaient cédé, les segments arrière se trouvaient à 6 mètres de là, les segments avant à 10 mètres dans la direction opposée. Il entreprit de démolir la cloison en bois, arrachant l'une après l'autre chaque section de chaque câble à son rail de guidage, les tirant l'un vers l'autre en mobilisant toute son énergie.
« Tu es sûr que tout va bien ?»
insista Orfu. Il rétracta ses lames et déploya ses manipulateurs, réglant son contrôle moteur sur extra fin. Il entreprit d'épicer les câbles avec une telle rapidité que ses doigts métalliques devinrent flous à la lueur crue de ses lampes perçant les ténèbres. L'eau menaçait de l'engloutir chaque fois que le navire roulait sous l'impact d'une vague, puis glissait dans le creux. Manmut se cramponnait alors dans l'attente du choc suivant, dont le fracas était digne d'un canon. Et il savait que chaque vague les rapprochait des récifs et des falaises. «
Tout va bien !»
dit-il. Ses doigts voltaient au-dessus des torons, les tissant et soudant leurs fibres métalliques avec les lasers de faible puissance fixés à ses poignets.
Je suis assez occupé pour le moment.
Je te recontacte dans quelques minutes, proposa Orfu.
Oui. Si j'échoue à réparer le gouvernail, nous nous écraserons sur les rochers dans une demi-heure. Je lui dirai la vérité un quart d'heure avant la fin.
Oui,
répondit Manmut.
Recontacte-moi dans quelques minutes.
Cette misérable felouque n'était pas la Dame Noire. Elle n'avait même pas de nom, mais elle était en état de naviguer. Sur le pont arrière, les jambes bien campées pour compenser tangage et roulis, les yeux rivés aux falaises battues par la tempête et visibles à moins d'un kilomètre de là, fière d'avancer toute voile dehors, même si les voiles en question étaient rapiécées, Manmut saisit la roue. Les drosses tinrent bon et le gouvernail répondit. Il remit le navire sur le bon cap et appela Orfu pour l'informer de leur situation. Il ne cacha rien à l'Ionien. Il s'écraserait sans doute sur les brisants dans moins d'un quart d'heure, mais en attendant, il était maître à bord.
« Eh bien, je te remercie de ta franchise, » dit Orfu. « Puis-je faire quelque chose pour t'aider ?»
Manmut, pesant de tout son poids sur la roue pour négocier la prochaine vague afin d'éviter un chavirage, répondit
« Toute suggestion sera la bienvenue. »
Les nuages ne semblaient pas vouloir se dissiper, ni le vent se calmer. Les cordages vibraient, la polytoile déchirée claquait et la proue disparaissait régulièrement sous une muraille d'écume blanche dont les résidus parvenaient jusqu'à Manmut.
« Encore !» fit soudain Orfu. « Qu'est-ce que vous faites ici? Faut-il qu'on lâche tout et qu'on aille au fond? C'est boire la tasse que vous voulez. »
Manmut mit quelques secondes à réagir. Alors qu'une nouvelle vague le soulevait, le mettant dans un état proche de la gravité zéro, il se retourna, vit que les falaises s'étaient encore rapprochées, ouvrit la tempête dans sa mémoire secondaire et s'écria
« La vérole t'étouffe, aboyeur de blasphème, chien sans pitié !»«
Faites donc le travail alors !»«
Au gibet, dog! Au gibet, fils de garce, impudent gueulard !»
hurla Manmut comme pour couvrir le vacarme des vagues et du vent, ce qui était strictement inutile dans le cadre d'une transmission radio.
« Nous avons moins peur de nous noyer que toi !»«
Se noyer, lui ? Non pas, je m'en porte garant !»
gronda Orfu.
« Quand bien même le navire serait aussi frêle qu'une coquille de noix et perdrait comme une fille qui a des fuites. » « Manmut, qu'est-ce que c'est au juste une fille qui a des fuites ?»«
Une femme qui a ses règles. »
Manmut pesa sur la roue pour virer à bâbord. Des tonnes d'eau déferlèrent sur lui. Les tourbillons d'écume et de brume rouge l'empêchaient de voir les falaises derrière lui, mais il pouvait sentir les rochers.
« Ah !» fit Orfu. « Je suis confus. Où en étais-je »
« Au plus près du vent !»
souffla Manmut.
« Au plus près du vent ! Au plus près ! Hissez les deux voiles basses ! Au large ! Au large !»«
Tout est perdu !»
récita Manmut.
« En prière ! En prière ! Tout est perdu !» « Attends une minute. »«
Ce n'est pas dans le texte, ça, » fit remarquer Orfu.
« Non, attends une minute. Il y a une brèche dans la falaise, une ouverture sur l'intérieur. »«
Assez grande pour nous laisser passer ?»«
Si c'est la bouche de Condor Casma, elle est plus vaste que le chaos de Connemara sur Europe. »«
Je ne me rappelle pas la superficie du chaos de Connemara, »
avoua Orfu.
« Elle est supérieure à celle des grands lacs d'Amérique du Nord, avec la baie d'Hudson en supplément gratuit. Condor Casma n'est qu'une mer intérieure s'ouvrant sur le nord. » Nous y disposerions de plusieurs milliers de kilomètres carrés pour manœuvrer. Fini les rivages menaçants.
C'est une bonne nouvelle,
demanda Orfu, qui n'osait visiblement pas reprendre espoir.
C'est une chance de survie,
dit Manmut. Il hissa la grande voile au maximum. Il attendit d'être sur la crête de la vague suivante, puis vira à tribord, tournant le navire vers la brèche de plus en plus large qui s'ouvrait entre les falaises.
C'est une chance de survie,
répéta-t-il. La tempête s'acheva l'après-midi du huitième jour. À une heure donnée, les nuages étaient bas et tourmentés, le vent faisant rage et les eaux de cette immensité qu'était Condor Casma étaient écumantes. L'heure d'après, à l'issue d'une ultime ondée de sang, le ciel redevenait bleu et les eaux placides, et les petits hommes verts, émergeant de leurs abris, remontaient sur le pont tels des enfants après une sieste réparatrice. Manmut était vanné. Bien qu'alimenté au goutte à goutte par ses cellules solaires, dont les cubes énergétiques consentaient parfois à lui transmettre de faibles décharges, il était épuisé à tous les niveaux, organique, mental, cybernétique et émotionnel. Les PHV semblèrent s'émerveiller devant ce qui restait des voiles reprisées, des câbles rafistolés et autres réparations d'urgence effectuées durant les 3 jours précédents. Puis ils se mirent à pomper, à laver les ponts rouge sang, à ravauder la polytoile, à redresser la coque et les cloisons défoncées, à réparer les mâts fendillés, à démêler les cordages et à faire avancer la felouque. Manmut alla sur le pont médian pour superviser le déplacement d'Orfu, que l'on installa dans un endroit relativement sec, bien arrimé en place et abrité sous sa toile, puis il se trouva un petit coin chauffé par le soleil où il ne gênerait personne, entre une cloison et un cordage enroulé qui apaiserait son agoraphobie, et il s'autorisa à sombrer dans une demi-inconscience. La mer était calmée, mais lorsqu'il fermait les yeux, il voyait les vagues déferler, sentait le pont giter, entendait le vent hurler. Il jeta un coup d'œil en douce. Poussé par une douce brise, le navire avait mis le cap au sud afin de regagner Valles Marineris et Meles Casma par la bouche de Condor Casma. Manmut désactiva sa vision et s'autorisa à somnoler. Quelque chose le toucha sur l'épaule, le réveillant en sursaut. L'un après l'autre, les 40 PHV défilaient devant lui, le gratifiant d'une petite tape. Il en informa Orfu via le canal subvocal.
« Peut-être qu'ils te remercient de leur avoir sauvé la vie, » dit l'Ionien. « Je ferais comme eux si j'avais des bras et des jambes. »
Manmut s'abstint de tout commentaire, mais il était sceptique. Les PHV n'avaient jusque-là manifesté aucune émotion, même quand leur traducteur périssait à l'issue d'un dialogue avec lui, et il avait peine à croire qu'ils puissent lui être tous reconnaissants, bien qu'ils soient assez bons marins pour savoir que le navire aurait coulé sans son intervention.
« Ou alors, ils te considèrent comme un vénard, et espèrent que tu leur transmettras une partie de ta chance, » ajouta Orfu.
Avant que Manmut puisse commenter cette remarque, le dernier PHV de la file se planta devant lui et, au lieu de lui tapoter son épaule en fibre de carbone, se mit à genoux, s'empara de sa main droite et la plaqua contre son torse.
« Oh non !» gémit Manmut. « Ils veulent encore communiquer !»«
Excellente idée !» répliqua l'Ionien. « Nous avons des questions à leur poser. »«
Leurs réponses ne valent pas la mort d'un petit homme vert !»
contra Manmut. Il mettait pour retirer sa main autant de force que le PHV en consacrait à la tirer vers son torse.
« Peut-être bien que si !» déclara Orfu. « Même si cette unité PHV subit une épreuve similaire à la mort telle que nous l'entendons, ce dont je doute. Et puis c'est d'elle que vient l'initiative. Laissons-la établir le contact. »
Manmut cessa de résister et sa main plongea dans le torse du PHV. Il éprouva une nouvelle fois cette sensation écœurante lorsque ses doigts s'enfoncèrent dans la chair, s'immergèrent dans une épaisse et tiédasse solution saline, se refermèrent autour de cet organe palpitant aussi gros qu'un cœur humain.
« Essaie de le serrer moins fort cette fois-ci, »
conseilla Orfu.
« Si la communication s'effectue bien par le biais de paquets moléculaires de nano-octets organiques, le volume mental diminuera avec la surface de contact. »
Manmut hocha la tête, se rappelant aussitôt qu'Orfu ne pouvait le voir, puis se concentra sur l'étrange vibration qui se transmettait de sa main à son cerveau, signe que le dialogue était entamé.
« Nous vous remercions d'avoir sauvé notre navire. »«
Pas de quoi ?»
répondit Manmut à haute voix. En même temps qu'il traduisait ses pensées en langage parlé, il transmettait la conversation à Orfu via le faisceau cohérent.
« Quel est le nom que vous vous donnez ?»«
Zex. »
Ce terme n'évoquait rien à Manmut. Il sentit l'organe de communication du PHV palpiter entre ses doigts et fut pris d'une violente envie de le lâcher, d'arracher son poing du torse de cet être condamné, mais cela ne serait utile à personne.
« Connais-tu ce mot, Zex ?»
demanda-t-il à Orfu.
« Un instant, »
répondit ce dernier.
« J'accède à ma mémoire tertiaire. Là, extrait d'une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn. » Un terme d'argot dérivé du mot russe « charashka », institution technique ou scientifique où ne travaillent que des prisonniers. On appelait « zex » les détenus de ces camps de travail soviétiques.
« Eh bien, »
fit Manmut en réponse,
« je ne pense pas que ces PHV martiens à la physiologie chlorophyllienne soient asservis à un éphémère régime terrien disparu depuis plus de 2000 ans. »
Cet échange avait pris moins de 2 secondes.
Il s'adressa de nouveau au petit homme vert.
« Pouvez-vous nous dire d'où vous venez ?»
Cette fois-ci, la réponse ne consistait pas en un mot, mais en une série d'images. Des vertes prairies, un ciel d'azur, un soleil bien plus grand que celui du ciel martien, une chaîne de montagnes dans le lointain.
« La Terre ?»
dit Manmut, surpris. Et le PHV de répondre
« Pas l'étoile du ciel nocturne d'ici. Une autre Terre. »
Après mûre réflexion, Manmut dut se contenter de cette question à la formulation plutôt maladroite.
Quelle Terre, alors ?
Le petit homme vert se contenta d'émettre les mêmes images. Verte prairie, montagne dans le lointain, soleil terrien. Manmut le sentait perdre son énergie, sa vitalité.
« Je suis en train de le tuer !»
pensa-t-il pris de panique.
« Interroge-le sur les visages de pierre !»
souffla Orfu.
« Qui est l'homme représenté sur les visages de pierre ?»
demanda Manmut, obéissant.
« Le mage, celui des livres, le seigneur du fils de Sycorax qui nous a amenés ici. Le mage est même le maître de Sétébos, le dieu de la mère de notre seigneur. »
« Un mage ?»
dit Manmut à Orfu.
« En d'autres termes, un magicien, un sorcier, comme dans les rois mages. »«
Nom de Dieu !»
Manmut était furieux de gaspiller ainsi le temps qu'il restait à l'être vert. Le cœur de celui-ci battait un peu plus faiblement à chaque seconde.
« Je sais ce que signifie le mot mage !»
ajouta-t-il.
« Mais je ne crois pas à la magie, et toi non plus !»«
Apparemment, on ne peut pas en dire autant de nos PHV, »
rétorqua Orfu.
« Interroge-le sur les habitants d'Olympus Mons. »
« Qui sont les conducteurs de chars d'Olympus ?»
Manmut avait l'impression de ne pas poser les bonnes questions, mais il ne savait rien de celle-ci. Il reçut une rafale de nano-octets visuels qui se traduisait par ces mots.
« De simples dieux, asservis en ce lieu, par un cœur amer qui attend son heure et mort. »
« Qui ?»
commença Manmut, trop tard. Le petit homme vert venait soudain de tomber, et la main du Moravec ne tenait plus un cœur battant mais une coque desséchée. Le cadavre flétrit et se contracta dès qu'il toucha le pont. Un fluide translucide disparut entre les planches tandis que ses yeux anthracites sombraient dans son visage vert, lequel brunit et se rida à toute allure, perdant tout semblant d'humanité. Quelques PHV vinrent ramasser et emporter sa dépouille fanée. Manmut fut pris d'un tremblement incontrôlable.
« Il faut trouver un autre communicateur et achever cette conversation, » dit Manmut.
« Pas maintenant, »
répondit Manmut entre deux frissons.
« Un cœur amer qui attend son heure est mort, »
cita Orfu.
« Tu as sûrement reconnu ces mots. »
Manmut secoua la tête, se rappela que son ami ne pouvait le voir et dit
« Non. »«
C'est pourtant toi, le spécialiste de Shakespeare. »«
Ce n'est pas du Shakespeare. » »«
En effet. » C'est du Browning, Caliban upon Sétébos.
Jamais entendu parler.
Manmut réussit à se lever, à tenir sur ses deux pieds et à gagner le bastingage en vacillant. L'eau qui clapotait contre la coque était à présent plus bleue que rouge. S'il avait été un être humain, il y aurait déversé le contenu de son estomac.
Caliban ! Glapit Orfu. Un cœur amer qui attend son heure est mort. La mère de cette créature difforme, mi-homme, mi-monstre marin, était une sorcière, Sycorax, qui vénérait un dieu du nom de Sétébos.
Le PHV mourant avait cité ces noms, se rappela Manmut, mais il n'était pas en état de se concentrer sur leur sens. Cette conversation lui avait donné l'impression d'égrener un chapelet dont le fil aurait été un tendon et chaque grain un caillot de sang.
Les PHV ont-ils pu nous entendre réciter la tempête il y a 3 jours, lorsque tu as repris le contrôle de la felouque ?
Demanda Orfu.
Nous entendre ?
Répéta Manmut.
Ils n'ont pas d'oreilles.
Alors c'est nous et non pas eux qui faisons écho à cette nouvelle réalité des plus étranges,
dit l'Ionien avec un grondement plus sinistre qu'amusé.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Des falaises rouges devenaient visibles à l'ouest. Elle se dressait sur une hauteur de 700 ou 800 mètres au-dessus du delta de Candor-Casma, qui allait en s'élargissant.
« Nous sommes à l'intérieur d'un rêve dément, »
reprit Orfu.
« Mais la logique qui le commande est consistante. quoique démente, elle aussi.
« Qu'est-ce que tu racontes ?»
répéta Manmut. Il n'était plus d'humeur à jouer à ses petits jeux.
« Nous connaissons désormais l'identité du visage de Pierre, » dit Orfu.
« Ah bon ?»«
Oui. Le mage, celui des livres. Le seigneur du fils de Sycorax. »
La solution de l'énigme était évidente, mais l'esprit de Manmut était incapable de la trouver. Son système était encore sous le coup de cette invasion de nano-octets, emplie d'une clarté paisible mais mourante qui lui était totalement étrangère et qui l'accueillait pourtant avec joie.
« Qui est-ce ? »
demanda-t-il à Orfus, sans plus se soucier d'être pris pour un crétin par son ami.
« Prospero !»